Vous êtes sur RTL.
Dominique Tenza,
RTL Matin.
Et à 7h, le journal, c'est avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Dominique, bonjour à tous. Et à la une, la résurgence du virus se confirme notamment en Bretagne. La situation appelle à la vigilance, mais pas de raison de s'alarmer selon Santé publique France. En revanche, le port du masque est plus que recommandé dès maintenant dans les lieux publics clos. Illustration à Toulouse dans un instant. Une deuxième vague en Catalogne, Barcelone se reconfine pendant au moins 2 semaines. Bientôt, les vacances aussi pour le gouvernement, ce sera près du téléphone et pas loin de Paris. Le président a fait passer la consigne. Et puis le retour des supporters du PSG au Parc des Princes hier soir, pas toujours dans le respect des règles sanitaires.
Les cas de coronavirus augmentent en Bretagne, mais la situation sanitaire n'est pas alarmante selon Santé publique France.
123 nouveaux cas en seulement 48 heures, dont une centaine dans le Finistère. Le taux de reproduction du virus est le plus élevé de France. 10 malades en contaminent 26 autres. En Mayenne, qui observe aussi une flambée des cas, on impose le port du masque dans les lieux clos publics dans toutes les communes, sur arrêté du préfet. Au niveau national, ce sera dès la semaine prochaine, mais à Toulouse, les habitants n'ont pas attendu ce fameux décret du gouvernement. Patrick Hisson, vous l'avez constaté sur place.
Oui, très clairement, hier, les Toulousains ont donné l'impression d'appliquer déjà la mesure. Il était même très difficile de trouver une personne sans masque dans les magasins.
C'est bien, surtout quand il y a du monde. Ça protège autrui, et y compris nous-mêmes.
De toute façon, dans tous les magasins à peu près, là, c'est obligatoire. Donc, c'est lourd à porter, ça tient chaud et tout ça. Mais bon, dans les conditions actuelles, je pense que c'est raisonnable de faire ça.
Même dans cette grande enseigne où les masques sont pour l'instant simplement conseillés, le public était hier plutôt prudent, comme le reconnaît cette vendeuse.
Je pense que c'est pas plus mal parce qu'on demande à tous les commerçants de le porter, donc c'est pas plus mal que tout le monde y mette du sien et que chacun le porte. Nous, on le porte en magasin, donc que les clientes le portent, je trouve ça très bien.
Dans cet autre commerce où le masque est obligatoire, l'annonce du Premier ministre est une très bonne nouvelle.
Je trouve que c'est bien parce que ça nous évitera de faire la police. C'est important que tout le monde respecte ça et que si tout le monde le respecte, ça y est, on avancera plus vite, quoi. Donc oui, il me tarde que ça soit obligatoire et qu'on n'ait plus à batailler pour que les gens portent le masque.
Même si depuis 48 heures, à Toulouse, le public paraît beaucoup plus discipliné.
Paris, Patrick Hisson à Toulouse pour RTL. À Paris, la 19e édition de Paris Plage maintenue mais légèrement modifiée en raison du contexte sanitaire. Transat, parasol, pétanque, mais le masque sera évidemment plus que recommandé. Les distributeurs de gel hydroalcoolique devraient être mis en place. Inauguration ce matin, l'événement prendra ses quartiers le long du parc Rive de Seine et du bassin de la Villette jusqu'au 30 août.
La responsabilisation individuelle, un concept visiblement peu respecté au Vernet où le maire pousse un cri de colère ce matin.
C'est dans cette zone des Alpes de Haute-Provence que 400 hippies venus de toute l'Europe ont planté leur tente. Il y a quelques jours, un campement illégal à quelques pas du site où s'était crashé l'A320 de la German Wings en 2015. François Balic, le maire totalement désarmé, se dit préoccupé sur les conditions sanitaires.
Et vous avez 400 personnes qui s'installent. Que pouvez-vous faire? L'autorité judiciaire, le temps que vous la saisissiez, c'est des gens qui passent que 4 ou 5 jours. Donc, vous ne pouvez pas faire une action nominale contre ces personnes, puisqu'elles changent. Je suis allé les rencontrer. Ils parlent beaucoup. Ils se rassemblent. Ils ont des ateliers de yoga. Ils fonctionnent au chapeau, c'est-à-dire que chacun vient manger et donne ce qu'il veut donner. J'ai informé les gendarmes qui sont venus régulièrement les voir et qui ont dit que ça leur posait pas de problème au niveau trouble à l'ordre public. Si jamais ça fait un cluster, on s'en rendra compte dans 3 semaines et puis les autorités sanitaires répondront de ce qui s'est passé parce que moi je les ai avertis immédiatement.
Propos recueillis par Juliette Jay sur RTL.
Question Aude à présent, cette deuxième vague tant redoutée est-elle en train d'arriver en Catalogne?
À Barcelone, les habitants sont appelés à rester chez eux pour ralentir l'épidémie. Les cinémas, théâtres et discothèques sont à nouveau fermés. Les rassemblements de plus de 10 personnes interdits. Les bars et restaurants doivent réduire de moitié leur capacité d'accueil. Des mesures qui devraient durer 2 semaines à minima. Audrey, chef d'entreprise à Barcelone, ne comprend pas ce reconfinement qu'elle juge excessif.
On a du mal à comprendre cette décision aussi contraignante, surtout quand on discute avec des personnels de santé. Ils nous disent bien que les services de réanimation ne sont absolument pas pleins. Et là, globalement, tout le monde porte un masque, encore plus qu'au début du confinement, parce que c'est le cas. On est resté confiné 3 mois, les enfants sont restés 60 jours sans sortir un pas dans la rue. Tout le monde vit avec cette peur d'être à nouveau enfermé. Et donc, du coup, ça pousse les gens à respecter les consignes de masque. Bien sûr, il a pu avoir des clusters, il peut avoir ce qu'on appelle des rebrotés. Il y a eu de la fête, mais même, c'est toute proportion gardée. Hein. Ça n'explique pas tout. Le gouvernement catalan à l'heure actuelle est un gouvernement extrémiste. Donc, ils ont entretenu la peur et là, ils ont l'intention de maintenir les gens dans la peur par un moyen ou par un autre.
Audrey, chef d'entreprise à Barcelone, au micro de Pierre Julien pour RTL, tandis qu'aux États-Unis, c'est chaque jour un record de plus sur le tableau épidémiologique. Plus de 77 000 nouveaux cas en 24 heures seulement et près de 1 000 décès supplémentaires.
Vous écoutez RTL, la suite du journal. Aude, 10 jours après sa nomination au poste de garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti obligé de mettre au placard certaines de ses idées.
Ah, non pas par renoncement idéologique, mais par manque de temps. Le ministre était en déplacement hier au palais de justice, l'occasion de clarifier ses intentions, notamment auprès des magistrats. Il ne fermera pas l'École nationale de la magistrature, mais il compte bien mener sa réforme sur l'indépendance du parquet.
La séparation du siège et du parquet ne se fera pas sous mon ministère, je n'en ai pas le temps, mais j'y suis totalement favorable. J'ai eu un certain nombre d'oppositions, je les ai toujours, je suis garde des Sceaux aujourd'hui, il y a ce que l'on peut faire, ce que l'on rêve de faire, c'est pas la même chose, je vous rassure, vous êtes tranquille. Je peux comprendre vos inquiétudes, mais de grâce, ne m'interrogez pas sur ce dont j'ai rêvé et que je ne ferai pas. Et c'est pas que j'en ai pas envie, hein. C'est comme l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Moi, je veux qu'on touche à l'ENM, mais j'aurai pas le temps de le faire. C'est clair, c'est net, c'est précis. C'est pas à l'ordre du jour. Maintenant, je vais vous dire, le parquet, on va porter au Congrès, et moi je m'y suis engagé, une réforme qui permettra de graver dans le marbre une pratique que je trouve extrêmement importante et qui a connu quelques entorses sous un autre pouvoir.
Éric Dupond-Moretti au micro de Cindy Hubert pour RTL. Gérald Darmanin lui répond à ses détracteurs dans une interview à La Voix du Nord. Le ministre de l'Intérieur, visé par une plainte pour viol, est régulièrement la cible de militantes féministes. Il se dit, je cite, « tranquille comme Baptiste » et à la disposition de tous les magistrats de France. Le Premier ministre n'abandonnera pas la réforme des retraites mais repousse les concertations à la fin de l'année en raison de la crise économique. De même, l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage est reportée à 2021. En revanche, la taxe d'habitation disparaîtra bien en 2023, y compris pour les plus riches.
Le calendrier social a beau être ajusté, pour autant l'été ne sera pas de tout repos pour le nouveau gouvernement. On en parle juste après ça.
RTL Matin.
RTL Matin.
Dominique Tenza.
Et la suite du journal avec Aude Vernuccio. Premier gros week-end de départ en vacances pour les Français. Le gouvernement devra lui encore patienter deux petites semaines.
Ce sera juste après le dernier Conseil des ministres du 29 juillet. Et comme à l'accoutumée, Emmanuel Macron se rendra au fort de Brégançon. Quant au gouvernement fraîchement nommé, les règles sont bien précises. Évidemment, pas question de profiter d'une parenthèse enchantée, William Galibert.
Oui, pour résumer, ce sera pas trop loin de Paris. Et pas trop loin du téléphone. Chaque ministre devra donner les dates, les destinations, les adresses et les numéros de téléphone pour rester joignable. Obligation aussi de rester en Europe, dans l'espace Schengen. Le secrétariat général du gouvernement a transmis les consignes officielles. C'est un courrier où l'on parle des ministres qui, je cite, « souhaitent s'absenter ». Et là, tout est dans le verbe « souhaiter ». En clair, ils peuvent aussi continuer à travailler. Rien ne les empêche d'être présents sur le terrain pendant les vacances, glisse-t-on malicieusement du côté de Matignon. D'ailleurs, les ministres se préparent à la jouer sobre. La ministre des Sports annonce par exemple qu'elle louera un mobil-home dans un camping du Cotentin. Vive les vacances made in France. Jean Castex, lui, veut même aller encore plus loin et se montrer au travail tout au long de l'été. Je ne pense pas que ce soit le genre à prendre des vacances, explique son entourage.
Les informations de William Galibert du service politique d'RTL. Prochain rendez-vous pour l'exécutif à la rentrée le 24 août. Sur les routes, aujourd'hui, bison futé, voie rouge dans le sens des départs. Ça risque de coincer surtout en milieu de journée au sud et le long de la Méditerranée, comme sur l'autoroute A7 et la 9. RTL vous accompagne dans la voiture ce matin. On fera le point sur la circulation dans une heure.
Et à 8h40 dans ce studio, le patron de Vinci Autoroute, il gère la moitié du réseau français et voit passer chaque jour 4 millions de voyageurs en ce moment en période estivale. On a plein de questions à lui poser, ce sera tout à l'heure à 8h40.
Alors tout le monde n'a pas la chance de rouler en électrique ou d'avoir l'option éco-conduite incluse, mais il y a toujours quelques astuces pour rouler mieux, bon pour l'environnement et pour le porte-monnaie. En voici quelques-uns des conseils signés Christophe Bourreau.
Alors le premier conseil, ne poussez pas à fond la clim. Quelques petits degrés seulement d'écart entre l'habitacle et l'extérieur et c'est une consommation qui grimpe très vite de près d'un litre aux 100 km. Deuxième règle, une conduite sans à-coups, conseille Anne Lavaux, déléguée générale de la prévention routière.
Ce qui veut dire qu'on évite tout ce qui est freinage brutal. On va chercher à avoir une vitesse constante. Donc là, on peut se faire aider par le régulateur.
Pensez aussi à bien enlever les barres de toit et autres coffres une fois arrivé à destination. Autre astuce, si votre voiture n'est pas équipée d'un système stop and start et qu'elle est arrêtée plus de 20 secondes, n'hésitez pas dans ce cas à couper le moteur et vous économiserez jusqu'à 15% d'essence, une éco-conduite qui vous fera économiser pas mal de carburant et courir moins de risques au volant.
Les études que l'on a actuellement disponibles estiment que la généralisation des pratiques de l'éco-conduite permettrait une baisse des accidents de 10 à 15%.
L'éco-conduite, c'est enfin bon pour la planète. Rouler zen, en effet, fait baisser en moyenne de 10 à 15% les émissions de CO2.
Christophe Bourreau pour RTL.
On passe au sport. Ils étaient heureux hier, les supporters du Paris Saint-Germain.
Retour au Parc des Princes après des mois sans match. Le club parisien s'est largement imposé 7 buts à 0 face aux Belges de Vasland Beveren. Je le dis bien, j'espère. De quoi donner le sourire à Thomas Tourelle.
C'est toujours bien de jouer ici, c'est une stade spectaculaire et très unique. C'est toujours une atmosphère spéciale. On préfère de jouer avec tous les spectateurs, mais si on joue dans le parc, c'est toujours un plaisir. Et on peut voir que tout le monde a profité d'être ici. Le staff, les joueurs, nous sommes très confortables ici. Et voilà.
Propos recueillis par Thomas Dulin, tellement heureux ces ultras qu'ils en ont oublié les gestes barrières, un comportement qui a crispé les instances du football selon le journal L'Équipe. Sur les images, pas de masque, pas de distanciation physique non plus et ce malgré les nombreux messages de prévention diffusés dans les haut-parleurs.
Merci beaucoup Aude Vernon.